Un mot et tout est sauvé, un mot et tout est perdu. André Breton. Merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à toutes et à tous. Eh ben, nous sommes ravis de vous accueillir comme chaque samedi soir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin, toujours fidèle au poste, à la technique. Catherine Axe au micro et autour de moi. Ce soir, Virginie Delvaux, directrice du CIEP, Centre d'information et d'éducation populaire, un mouvement d'éducation permanente du mouvement ouvrier chrétien. Et Michel Gueude, écrivain. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais qu'est-ce qui peut bien réunir mes deux invités de ce soir? Eh bien, l'envie de créer des mondes merveilleux. Et nous en avons bien besoin pour le moment dans ce contexte actuel. Virginie Delvaux, vous semez des mondes possibles, c'est-à-dire que vous allez utiliser la culture comme moteur d'émancipation et de résistance au travers d'une campagne dont vous allez nous parler dans quelques instants. Et vous, Michel Gueude, la résistance, ça vous connaît puisque vous êtes l'auteur d'un tout nouveau recueil que vous avez intitulé « La révolution n'est pas finie, culture et émancipation » aux éditions Espace de Liberté du Centre d'Action Laïque. Michel Gueude, vous êtes écrivain donc, mais aussi praticien et théoricien des médias et vous avez publié plusieurs essais sur la société de communication. Vous avez enseigné à Paris 8, à l'ULB, à l'École de recherche graphique et à l'École supérieure des arts. Je commençais cette émission par une phrase d'André Breton, « Un mot et tout est sauvé, un mot et tout est perdu ». Cela vous parle puisque vous dites en introduction de votre livre « L'origine de la liberté humaine est dans la langue ». Alors expliquez-nous.
J'ajouterais une phrase du philosophe Eric Clemens, « Un mot seul n'est jamais juste ».
Ah ben voilà, mon philosophe ce soir. Et puis le mot sera au centre de notre propos.
Voilà, c'est l'idée du débat. Un mot seul n'est jamais juste parce qu'il faut débattre. Voilà. Et donc nous sommes en démocratie, l'action politique, le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, passe par une discussion libre dans l'espace public. Et cette discussion, elle a lieu avant l'action et puis elle a lieu après l'action parce qu'il faut l'évaluer, il faut rediscuter, il faut éventuellement corriger. Donc les mots dans une démocratie, c'est un élément vital de l'action elle-même.
Alors, mot vital pour la démocratie, pour la liberté, mais on peut dire les choses comme elles sont, mais on peut aussi les inventer. Du coup, votre corollaire à vous, c'est le langage permet aussi le mensonge. Donc, ça veut dire que le mal fait partie aussi du débat et du discours.
Oui, c'est-à-dire le langage a cette caractéristique particulière, cette gentillesse à notre égard, de ne pas nous obliger à dire les choses comme elles sont. Donc, si je vous parle d'un cheval bleu, ça n'existe pas, mais vous voyez très bien ce dont je parle. Nous avons cette possibilité de nous extraire de la réalité pour parler. Et donc aussi d'ouvrir la porte de l'imaginaire, d'ouvrir la porte de la fiction, d'ouvrir la porte de la création verbale. Et donc tout ça, ça nous permet d'inventer des avenirs et d'en discuter. Vous, à la place où vous êtes, avec votre vie, votre expérience, vos centres d'intérêt, vos intérêts particuliers, vous prévoyez, vous avez envie d'un certain avenir, moi, de ma place, j'ai envie d'un autre, et nous allons nous affronter. Donc la société va être forcément divisée, nous allons tous discuter de ce que nous voulons, et nos interprétations des choses vont être différentes, nous verrons les choses d'un endroit différent, d'un angle différent, nous allons nous bagarrer. Et par ailleurs, effectivement, le fait de pouvoir s'abstraire des choses, ça nous permet aussi de mentir. Si je vous dis qu'en ce moment il neige fortement, alors qu'en réalité il fait superbe, eh bien, la foudre ne me tombe pas sur la tête.
Voilà. Donc je peux vous mentir.
La langue m'y autorise. Et donc elle autorise aussi le mal. Elle autorise la médisance, elle autorise la malveillance, elle autorise le mensonge. Et par conséquent, le mal est inscrit dans le langage lui-même. Oui, on ne peut pas s'en débarrasser.
Pas d'homme libre sans conflit, comme vous dites. La culture est donc un champ de bataille. Mais vous précisez aussi que les goûts et les couleurs se discutent, hein, comme l'affirmait Kant dans la critique du jugement dès le XVIIIe siècle. Et même, il faut argumenter son jugement. Du coup, créer un débat, c'est aussi une vie culturelle qui contribue à une vie politique, comme disait Hannah Arendt. On a besoin de ça.
Voilà, alors nous avons tous des imaginaires, nous regardons des œuvres, nous les interprétons chacun à notre manière. Et donc, nous discutons constamment des goûts et des couleurs. Il y a un proverbe qui dit le contraire, mais il est faux. Parce que discuter des goûts et des couleurs, c'est une certaine façon de projeter l'avenir. Voilà. Comment nous voyons l'avenir? Qu'est-ce que c'est un bel avenir pour nous? Et donc forcément, quand vous voyez un film et que vous me dites « Ah, ce film, je l'ai adoré » et que moi, je l'ai détesté, ça veut dire que nous avons une vision différente de la beauté, différente du bonheur, différente de ce qui nous ferait plaisir, différente de la manière d'organiser notre vie familiale. Ça, vous regardez un film avec une bête histoire d'amour, un garçon, une fille qui se rencontrent et ils traversent quelques aventures avant que, bien entendu, ils s'embrassent et ils furent heureux pour eux. Et selon votre propre conception de l'amour et la mienne, nous allons nous affronter. Et donc, évidemment, nous allons, en discutant, nous allons poser des choses qui ne sont pas directement des discussions politiques au sens tout à fait concret des choses, mais qui sont des confrontations de vision du monde. Et donc, discuter des goûts et des couleurs, et donc discuter des œuvres, quand on discute d'un programme télévisé ou d'un livre qu'on a lu ou d'un film, d'une certaine façon, nous échangeons nos visions du futur. Et un exemple que je donne dans le livre, qui m'avait beaucoup amusé à l'époque et qui avait beaucoup choqué mes étudiants, c'était Clinton jouant du saxophone pendant sa campagne électorale. Et il disait « Ah oui, voilà, c'est bien la preuve que ces campagnes électorales, c'est rien du tout, c'est du show, c'est du Barnum, ils ne discutent pas de programme, ils se vendent, ils font de l'image. »
Mais, sauf que ça faisait sens là-bas aussi, aux États-Unis.
Oui, c'est une forme jouer de aux États-Unis en particulier, oui. Jouer du saxophone ou jouer du banjo, c'est pas la même chose. Et donc, un jour, il y a un 11 septembre, et on attend ce qui n'est pas prévu, qui n'est pas au programme, heureusement d'ailleurs, et la manière dont le président va réagir sera en accord avec cette sensibilité qu'il avait exprimée. Et donc, quand je choisis effectivement un président parce qu'il joue de tel ou tel instrument, parce qu'il exprime ceci ou cela, parce qu'il est habillé d'une certaine façon, etc., je me dis, voilà, ça c'est un homme à qui je peux faire confiance. Le jour où il arrivera quelque chose, il va réagir comme j'aimerais qu'il réagisse. Et vous, à côté, vous dites, ah bah non, celui-là, vraiment, il m'insupporte. C'est pas du tout lui que je veux, c'est elle, parce qu'elle, elle réagira comme moi j'ai envie.
Mais ces goûts et ces couleurs, on peut en débattre, certes, parce qu'on se respecte, parce que là, c'est positif. Je ne cherche pas à vous faire taire et inversement. Mais vous dites en chapitre 4 de votre livre que vous parlez du cercle des contre-révolutions. Vous dites que la force des totalitarismes, c'est justement d'attaquer la liberté à la racine, dans la langue. Est-ce qu'historiquement, il a toujours fallu se battre pour faire vivre sa culture? On pourrait même dire qu'elle n'a jamais été aussi florissante que lorsqu'elle est contente de l'étouffer dans les totalitarismes. On voit aujourd'hui aussi que Daesh, c'est ce qu'ils cherchent à faire. S'ils attaquent une terre, oui, d'un café où la liberté se discute entre jeunes, c'est ça qu'on essaye de toucher aussi. Donc, danger.
Le principe du totalitarisme, c'est d'abord la censure, bêtement, tout simplement. On va interdire tout ce qui ne correspond pas à la ligne que l'État veut imposer. D'une certaine façon, pas seulement d'ailleurs les œuvres qui sont interdites, toutes les œuvres sont prises en otage, on peut y revenir si vous voulez. Mais les totalitarismes par rapport aux dictatures en général ont cette particularité qu'ils s'attaquent au langage lui-même. Et ils réduisent les possibilités de l'expression, ils imposent un vocabulaire. Vous êtes obligé de vous exprimer à l'intérieur de ce vocabulaire. Klemperer a écrit un livre qui s'appelle La LTI, la langue du Troisième Reich, et qui montre vraiment dans le vocabulaire utilisé, dans les journaux, dans la vie quotidienne, et finalement, les victimes elles-mêmes du régime sont obligées de s'exprimer dans cette même langue, parce que dès que vous utilisez d'autres mots, vous vous montrez, vous vous révélez comme un opposant, et vous êtes immédiatement arrêté. Et dans le monde soviétique, c'était la même chose. Donc il n'y a pas seulement l'interdiction de certaines œuvres ou de certains types d'opinions, il y a réellement dans la vie quotidienne une restriction complète de la langue. On est tous obligés de parler de la même façon, ce qui est le contraire même d'une démocratie où chacun s'exprime le plus librement
possible. C'est le mythe de Babel.
Et c'est Babel, voilà, c'est la langue babélienne, c'est-à-dire effectivement une seule langue, une seule manière de s'exprimer, un seul objectif, tout le monde dit la même chose et sinon vous êtes jeté au bas de la tour.
Heureusement, nos démocraties ont permis plusieurs langages. Hein. Une démocratisation culturelle, parlons, dont vous parlez dans le Cercle des Créateurs, un chapitre sur le Cercle des Créateurs. L'ensemble des citoyens en plus de lire, d'écouter de la musique ou de voir des films, peut s'approprier justement ce langage-là et s'exprimer. Il peut y participer activement, comme vous le dites. Pourquoi ?
Alors, c'est une longue bataille qui a commencé au 19e siècle. Oui, voilà. Ben, les révolutions démocratiques, c'est les révolutions bourgeoises de la fin du 18e siècle, Angleterre, États-Unis, France. Et donc, dans un premier temps, au 19e siècle, la bourgeoisie s'est appropriée cette liberté. Mais c'était pour elle. Elle avait pris cette possibilité de recevoir de la culture qui existait à peu près uniquement pour l'aristocratie. La bourgeoisie s'en est emparée. Les bourgeois allaient au théâtre, ils allaient à l'opéra, ils lisaient. Voilà. Les prolétaires, les paysans continuaient à être analphabètes, à être exclus de ce monde. Et petit à petit, ils y sont rentrés par leur bataille. Il y a eu la bataille pour l'école, c'est une très très grande bataille, évidemment. Il faut voir, en 1914, l'école est devenue obligatoire en Belgique. C'était déjà une bataille de plus de 50 ans. Et il y avait encore à peu près la moitié des enfants qui étaient analphabètes à ce moment-là. Donc ça a été une longue, longue bataille pour l'école. Et les mouvements ouvriers, le mouvement ouvrier chrétien et le mouvement ouvrier socialiste, se sont battus pour ce qu'ils appelaient l'éducation populaire, qui est devenue aujourd'hui l'éducation permanente, pour que, précisément, il y ait la possibilité d'avoir des actions culturelles en milieu populaire. Donc tout ça, ça a d'abord été le mouvement social. Et puis ça a été repris en partie par des politiques culturelles publiques. Par exemple, en 1920, on a établi en Belgique le fait qu'il y aurait une bibliothèque publique dans chaque commune. C'est la fameuse loi d'Estrée, un exemple parmi d'autres. Il a fallu se battre aussi pour du temps de loisir. Parce qu'il ne suffit pas qu'on vous dise « vous pouvez avoir accès ». Il faut avoir le temps de le faire. Donc la lutte pour le temps de travail, pour les 3-8, puis pour la semaine de 40 heures, ça a été une lutte très importante qui permet aux gens d'avoir du temps pour accéder à la culture. Il a fallu se battre pour des salaires, parce que la culture n'est pas complètement gratuite, il faut aussi pouvoir se l'offrir. Donc tout ça, c'est un grand mouvement social accompagné de politiques culturelles publiques. Et ensuite, ce public étant créé, des industries culturelles qui ont effectivement commencé à mettre un cinéma dans tous les quartiers, à créer des outils de diffusion de masse comme le disque, comme le livre de poche, etc., etc. Donc tout ça, c'est un grand mouvement qui fait que le XXe siècle a été en grande partie un accès généralisé aux classes populaires et aux classes moyennes de la culture qui était avant réservée à des élites et qui maintenant est à peu près partagée par tous. Mais alors évidemment, il y a un effet. Une fois qu'on accède à la culture, une fois qu'on la consomme, si je peux dire, on a aussi envie de s'exprimer. On ne veut pas simplement recevoir. Et donc petit à petit, les classes moyennes et les classes populaires se sont emparées, alors parfois de manière très simple. Une des premières expressions, c'est simplement l'appareil photo. Et évidemment, tout le monde ne fait pas des photos d'art. On photographie sa famille, son bébé, on photographie ses vacances, etc. Mais parmi ces millions de gens...
C'est vrai
que
c'était un luxe avant.
Voilà. Parmi ces millions de gens qui utilisent un appareil photo, des expressions apparaissent. Des gens l'utilisent. On le voit bien aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On a une photo d'un événement. On a une photo particulière qui est drôle. Les gens photographient des chats. Très bien. De temps en temps, il y a une photo de chat extraordinaire. Donc, l'expression est utilisée par les classes populaires. Alors, le premier grand mouvement de ça, c'est la littérature des poilus en 14-18. Ils se sont emparés d'un genre qui était le roman réaliste, disons Balzac, Zola, pour simplifier, qui était justement en train de...
Péricliter.
Oui, de péricliter. Les écrivains du début du XXe siècle, c'était plutôt les avant-gardistes, ils disaient, bon, tout ça c'est dépassé, la réalité d'aujourd'hui, les machines, la nouveauté, la modernité, la vitesse, ça, il faut faire éclater ce roman réaliste. Mais les gens, eux, c'est ce qu'ils lisaient encore, hein, ça c'était l'avant-garde, la grande masse des gens lisaient des romans réalistes, ils se sont emparés de cette forme pour raconter ce qui leur arrivait dans les tranchées. Donc des milliers de lettres, de journaux, de romans, de témoignages. Il y a eu une littérature de masse produite par les acteurs eux-mêmes qui réagissaient au fait que quand ils rentraient en permission, ils se rendaient compte que, d'une part, les journaux emplis de propos patriotiques ne racontaient pas du tout la guerre qu'ils vivaient vraiment et que leur famille vivait encore dans l'idée des guerres anciennes, chevaleresques, où le jeune homme partait à la guerre avec la conquête des Belges. Et eux, ils vivaient l'enfer dans les tranchées avec les rats, l'eau froide, etc. Donc ils avaient envie de raconter ça.
Et puis par la suite, vous l'expliquez dans le livre, les masses médias, la radio, la télévision qui évolue, qui s'émancipe, et tout ce qui s'ensuit, les réseaux sociaux. Vous parlez du mouvement ouvrier, justement, vous m'avez fait une belle transition aussi. Virginie Delvaux, vous êtes avec nous, directrice du CIEP, Centre d'information et d'éducation populaire. Vous allez nous parler d'une campagne menée par le PAC, Présence et Action Culturelle, et le CAL, pour que le citoyen prenne une part active dans la culture afin de combattre le racisme, le capitalisme et le patriarcat. On débat de tout cela en deuxième partie d'émission, juste après Les mots par le groupe La Rue qui est à nous.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grande vente aux enchères. Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes. Des mots de tête pour les charlatans. Des jeux de mots pour les artistes. Des mots d'amour pour les amants. Des mots d'amour pour les copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs. Des mots savants pour les emmerdeurs. Des mobilettes pour les voleurs. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots rues pour les poissonniers. Et des mots jetés pour les pas bien beaux. Des mots perdus pour les paumés. Des mots en l'air pour les oiseaux. Des mots de passe pour les méfiants. Et des mots clés pour les prisonniers. Des mots pour rire pour les enfants. Des mots tabous pour le taboulé. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités. Et des petits mots pour les béguins. Des mots d'ordre pour les ordonnés. Des mots fléchés pour les indiens. Des momies pour les pyramides. Des demi-mots pour les demi-portions. Des mots courants pour les rapides. Et le mot de la fin pour la chanson.
Voilà les mots par le groupe La Rue qui est à nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Virginie Delvaux, j'ai ceci entre les mains. des graines, voilà, un petit sachet rempli de graines et dessus un slogan, semons des possibles. Semons du verbe semer, des possibles, de possibilités, mais aussi on peut l'entendre comme semons de si le nôtre est possible. Alors qu'est-ce que c'est que cette campagne?
Mais je pense pour faire la transition, c'est à la fois montrer la force des mots, mais aussi et surtout montrer la force des citoyens sur le terrain pour mener toute une série de projets. Donc en fait, tout est né un peu de cette... ce grand événement qu'on a connu cette année avec Mons Capitale Culturelle. Et puis on s'est rendu compte que sans doute que Mons Capitale Culturelle allait mettre en avant et allait permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, l'accès à la culture sous diverses formes, mais que peut-être qu'elle allait occulter la manière dont les citoyens pouvaient se réapproprier la culture et dire des choses sur la société. Et donc du coup, on a voulu réfléchir avec plusieurs mouvements là-dessus. Et on a eu envie à la fois de donner la parole et de mettre en avant des actions citoyennes les plus larges possibles, diverses, donc à la fois en utilisant le créneau plus artistique, à la fois en justement en délibérant et donc en mettant l'accent sur la délibération, le débat, la parole, en ayant des actions de désobéissance civile, enfin de manière assez large, pouvoir se lancer dans une action, dans des actions qui donnent du sens aux gens dans la société. Et donc voilà, donc on a avancé là-dessus. Et donc d'abord pour le petit sachet, parce qu'il n'y a pas que le petit sachet de fait c'est une manière d'entrer en contact avec les citoyens, puisqu'on a eu trois actions ici dans le courant du mois de novembre, à Namur, à Bruxelles, à Mons et un petit peu partout en communauté française, dans des endroits les plus...
les gares notamment.
Entre autres les gares. Et donc l'idée c'était d'entrer en contact avec les citoyens. Avec ce petit sachet de graines de basilic, apparemment, je me réjouis de le tester.
Voilà, c'était que c'est basilic.
On pourrait le tester.
Ah bah, Michel Gueux l'a déjà volé, tiens. Il a déjà
mis de côté. Mais avec ça, on avait aussi et surtout une brochure qui reprend toute une série d'initiatives les plus diverses possibles. Et en fait, c'était une manière de rentrer en contact avec monsieur, madame, tout le monde, pour leur montrer ces initiatives, pas pour les montrer comme des exemples en soi, mais plutôt pour dire, en fait, et c'est bien ça, N'ayez pas peur. Il est tout à fait possible de se réapproprier notre monde, et sans doute que vous le faites déjà, et sans doute qu'autour de vous il y en a plein qui le font, parce qu'on se rendait compte que on avait le sentiment que les citoyens parfois avaient un peu une sorte de complexe ou une sorte de fantasme sur l'action collective qu'on pouvait se réapproprier. Et donc ce qu'on a voulu dire, c'est il n'y a pas besoin de talent de fou, il n'y a pas besoin de compétences ou d'organisation énorme pour mener des actions et des actions de lutte contre des formes de domination. Ici, vous les avez citées là tout à l'heure, quoi.
Oui, Michel Goethe, vous regardiez ce petit fascicule. Il y a une vingtaine d'acteurs, de partenaires, d'ASBL. Comment les avez-vous choisis, en fait, ces partenaires-là?
Dans le fascicule. Donc, c'est clair que nous, la volonté, c'était pas de choisir les plus exemplatives pour essayer qu'elles se reproduisent. Donc, l'idée, c'était pas de formater l'action, pas du tout, mais c'est de la rendre la plus diverse possible. Et donc, les trois mouvements, donc le PAC, CAL et le CIEP, nous avons autour de nous des initiatives qui ont émergé à partir de nos publics, mais pas uniquement. Et donc, c'était à la fois la volonté d'avoir des actions qui avaient un vecteur de communication assez différent, donc avoir une pluralité de types d'actions, mais aussi avec cette attention que c'était pas des actions qui étaient menées, on va dire, de manière absolue, mais qu'elles luttaient contre des formes de domination. Donc les 20 associations là qui sont mises en avant, c'est d'une manière ou d'une autre, par leur action, elles luttent contre des formes de domination. Alors les mots, on reparle des mots, les mots peuvent faire peur, mais
oui, c'est racisme, voilà. Capitalisme et patriarcat.
Et donc je dis les mots peuvent faire peur, et à la fois pour nous ils sont essentiels et ils sont encore très présents. Lorsqu'on a eu une des premières actions à la gare de Mons, entre autres, il y a TLMB qui a interviewé une jeune fille de 15 ans, 2015, qui expliquait qu'elle se sentait discriminée en tant que fille, en tant que femme, encore aujourd'hui. Et donc, bien sûr que le terme patriarcat ou que le terme domination peut faire peur, et à la fois, concrètement, ce que les gens peuvent vivre, c'est des sentiments parfois de discrimination, d'exclusion. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est face à des situations qui nous indignent, il est possible d'agir et de se mettre ensemble pour agir, et sans se dire qu'on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas les compétences pour. Et donc on a voulu donner la parole à des gens de terrain qui simplement ont eu l'envie et la force de se mettre ensemble pour mettre en avant des initiatives, quoi. Donc c'était vraiment ça notre ligne.
Eh ben, je vous propose de partir à la rencontre d'un de vos partenaires, hein, qui fait partie de cette action, Ce Monde est Possible. C'est l'ASBL AOUSA, j'espère que la prononce bien, -BE, une association laïque, mixte et féministe qui promeut les droits des femmes du monde arabe. On est allé à leur rencontre, écoutez.
Bonsoir, moi c'est Alicia Arbid, coordinatrice de l'association AOUSA, Arab Women Solidarity Association Belgium. Donc c'est une association laïque, mixte, indépendante et féministe qui travaille pour promouvoir les droits des femmes originaires du monde arabe. Donc on travaille principalement ici en Belgique, mais on fait pas mal d'actions aussi avec les pays du monde arabe, et on essaye surtout de créer des ponts entre les cultures, mélanger les publics, essayer de valoriser les cultures du monde arabe, de montrer la diversité. Et par des actions socioculturelles et de l'éducation permanente, on essaye de faire évoluer progressivement les mentalités. Alors, Ce Monde est Possible, tout d'abord, c'est génial et c'est possible. On a voulu promouvoir notre action Femmes au Café, qui est une action toute simple et très facile, finalement très possible, puisqu'il s'agit de rentrer dans les cafés particulièrement masculin. Je suppose que vous en avez déjà repéré quelques-uns à Bruxelles. Et donc nous, on vise ces cafés avec une approche très simple, qui est de vouloir rentrer en dialogue avec les hommes qui fréquentent ces cafés. Et donc on a plusieurs techniques, on a des petites stratégies, on se rassemble, on se regroupe entre femmes principalement, mais on est évidemment aussi ouvert aux hommes. Et on rentre dans ces cafés, on prend un thé qui est déjà bien meilleur qu'ailleurs. Et puis, généralement, soit on les aborde avec notre brochure, avec un événement qu'on organise, ou alors avec un jeu, puisqu'on crée aussi des outils, des jeux. Donc, par exemple, un jeu de cartes sur l'égalité. Ça marche très bien, puisque souvent, ils jouent aussi aux cartes dans ces cafés. Et donc là, on discute avec eux et on essaye de, par l'humour, par l'esprit critique, par le questionnement, de demander pourquoi il n'y a pas plus de mixité dans ces cafés. Et généralement, ça se passe très bien. Parfois, on a des barrières. Parfois, on a des personnes qui ne veulent pas du tout parler, des hommes qui se cachent derrière la religion, derrière les interdits, derrière les... Oui, je veux bien si ma femme vient, mais pas ma femme en premier. Il faudrait d'abord que les autres femmes viennent. Donc voilà. Alors là, on a eu toute une grande semaine d'action contre les violences dans le cadre du 25 novembre, la journée de lutte contre les violences envers les femmes. On avait notamment tout un ciné-débat sur la question des femmes réfugiées au Liban, où la réalisatrice Carole Mansour est venue. On a travaillé avec Euromed Rights et on a pu faire venir une délégation syrienne et palestinienne pour parler de ce magnifique document que je vous conseille, qui est pas ce que nous sommes. On travaille beaucoup aussi sur les questions de santé sexuelle et affective. Et là, on a aussi eu récemment, le 1er décembre, un petit déjeuner de solidarité pour travailler sur la question du VIH-Sida auprès notamment des publics originaires du monde arabe. Voilà, c'est un paquet d'activités. Je vous conseille surtout d'aller voir sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.awsa.be.
Voilà, est-ce qu'on peut résister par la culture, Michel Gueude?
Oui, on peut résister s'il faut résister. Moi, je préfère dire qu'on peut se révolter. Parce que dans la résistance, il y a quelque chose d'un peu fixe. Hein. Résister, c'est s'arc-bouter pour empêcher d'être renversé.
Ça n'implique pas l'action.
Ça n'implique pas vraiment l'action. Et je crois qu'on est dans un monde où, au contraire, l'action est possible. Et il y a plein effectivement, tout ce que Valérie a cité, c'est formidable parce que c'est l'exemple même du fait que les gens prennent des initiatives. Ils attendent pas, ils subissent quelque chose ou ils ont des revendications. Et avant, ça passait forcément par de très grosses organisations. Enfin, c'était lourd, tandis que maintenant, il suffit d'être quelques-uns et les outils existent. Les industries culturelles ont créé des outils qui sont effectivement portables, utilisables par chacun. Donc effectivement, on peut créer un site, on peut faire un film, on peut se lancer dans une expérience théâtrale, on peut organiser quelque chose assez facilement. Donc les moyens d'expression sont là, ils sont disponibles. Et donc au fur et à mesure que les gens les utilisent, ils y pensent, tiens, tu sais pas faire ça, on échange et on se lance dans quelque chose. Donc il y a une multiplication des actions et ça enrichit profondément la démocratie.
Je cite Michel Gueude, Virginie, et non pas Valérie, Michel.
Pardon, excusez-moi.
Je rétablis. La culture ne nous émancipe pas, dites-vous, en conclusion de votre ouvrage. Elle nous invite à nous émanciper et nous demande de rester révolutionnaires. C'est un peu ça, ce monde est possible, Virginie.
Oui, et donc j'entends bien la critique qui peut être faite sur le mot résistance. C'est vrai que nous, l'idée était avant tout d'inventer des possibles, donc se donner la possibilité de créer de nouveaux immeubles. Imaginaire. Et c'est clair que même si le slogan peut paraître naïf, on l'a pas du tout pensé comme naïf, malgré l'actualité aujourd'hui qui est sans doute très difficile. Mais justement, mener l'action sur le terrain, l'action qui est mise en réseau aussi, puisque je crois que c'est ça aussi une des forces qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre nos actions, nos petites actions chacun en réseau. Là, on peut ébranler ce qui nous assigne, ce dans quoi on se sent exclu ou discriminé. Donc, oui, concrètement, les actions qui sont menées là, elles ne sont pas enfermées.
Voilà,
elles ont vraiment une volonté de s'inscrire dans la transformation sociale et dans le changement. Et c'est parce qu'elles sont mises ensemble et en réseau qu'elles pourront, je pense, ébrécher un petit peu.
C'est une campagne qui a commencé en 2015, là, il y a pas longtemps, mais qui peut se prolonger encore pendant un moment si on veut agir. C'est...
Ah oui,
ça va durer une année.
Oui. Donc ici, en fait, j'ai envie de dire. Comme c'est le cœur de notre boulot, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc voilà, la question du travail culturel, la question de l'émancipation des publics, finalement, c'est notre travail au quotidien. Ici, on a une action, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Donc à un moment donné, on met en forme et on met des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on produit. Mais inévitablement que le travail, il a été fait en amont, qu'il va continuer. Il y a un clip vidéo aussi qui est diffusé pas mal sur Internet pour le moment. Il y a une page Facebook, il y a aussi comme volonté, de pouvoir partager des initiatives qui sont mises en place et donc de partager sur des manières de travailler, sur des enjeux de travailler. Donc tout ça, bien entendu, que ça existait déjà avant cette campagne, que ça va continuer à germer les années qui vont venir, bien entendu.
C'est ce qu'on vous souhaite. Et un livre à découvrir, Michel Gueude, La Révolution n'est pas finie, aux éditions Espace de Liberté. L'écrivain, homme libre, s'adressant à des hommes libres, n'a qu'un seul sujet, la vérité. C'est Jean-Paul Sartre. Montmartre. Ça termine le roman de Michel Gueude et ce sera aussi le mot de la fin pour notre émission. Et non, la révolution n'est pas finie. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres, Virginie Delvaux et Michel Gueude. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Bonne soirée à tous. United Nations.